Alors ce matin, on va commencer une nouvelle série dans le livre de l'Évangile de Matthieu. Donc une petite série de trois prédications pour l'Avent, pour Noël. Et on va débuter bien sûr au début de l'Évangile de Matthieu. Donc Matthieu chapitre 1, et ça c'est à la page 617 dans les Bibles blanches de l'Église. Matthieu 1, verset 1. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac eut Jacob. Jacob eut Judas et ses frères. Judas eut Pérets et Zérakh de Tamar. Pérets eut Hetsron. Hetsron eut Aram. Aram eut pour fils Aminadab. Aminadab eut Nakhshon. Nakhshon eut Salmon. Salmon eut Boaz de Rahab. Boaz eut Obed de Ruth. Obed eut pour fils Isaïe. Isaïe eut David. Le roi David eut Salomon de la femme d'Uri. Salomon eut pour fils Roboam. Roboam eut Abija. Abija eut Asa. Asa eut pour fils Josaphat. Josaphat eut Joram. Joram eut Ozias. Ozias eut pour fils Jotham, Jotham eut Akaz, Akaz eut Ézéchias, Ézéchias eut pour fils Manassé. Manassé eut Amon, Amon eut Josias. Josias eut pour descendant Jéconias et ses frères, à l'époque de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias eut pour fils Shealtiel, Shealtiel eut Zorobabel. Zorobabel eut pour fils Abiud, Abiud eut Eliakim, Eliakim eut Azor. Azor eut pour fils Sadoc, Sadoc eut Akim, Akim eut Eliud. Eliud eut pour fils Eliezer, Eliezer eut Matan, Matan eut Jacob. Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. Il y eut donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David, jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Et voici notre texte pour ce matin. Alors, quel rapport y a-t-il entre Noël et les gilets jaunes? Il manifeste à Noël, mais bon, je suggère que le rapport se trouve dans le mot autorité. Alors, mon but n'est bien sûr, pas de faire un commentaire politique sur la revendication ou sur la politique du président Macron. Mais le mot « autorité » cristallise bien le cœur de ce qu'on a vu hier et ces dernières semaines. L'autorité légitime du président, du Parlement, est contestée, même violemment par certains, sans doute une petite minorité. Certains appellent à la démission, d'autres veulent une espèce de révolution, renverser l'ordre démocratiquement établi. Alors, il faut dire que l'exercice du pouvoir n'est jamais une tâche facile. Il y a beaucoup de pièges potentiels. Et la Bible a beaucoup de sagesse à offrir à ceux qui nous servent de cette manière-là. Et la Bible a beaucoup de sagesse à offrir aux administrés, comme nous. On doit prier pour nos autorités et être des citoyens exemplaires. Le mot « anarchie » renvoie à l'idée de ne pas avoir de roi, ne pas avoir de responsable, de dirigeant. La Bible affirme, notamment dans le livre des juges, « l'anarchie est une chose terrible. L'exploitation, l'oppression économique, physique, sexuelle, religieuse, ces choses se déchaînent quand la loi est impuissante, quand il n'y a pas d'autorité qui exerce la justice. On a besoin de l'autorité, même si chaque système humain l'exerce imparfaitement. Et le message de Noël a tout à voir avec l'autorité. C'est ce qu'on va voir dans notre passage de ce matin. La bonne nouvelle de Jésus-Christ concerne l'autorité. Une autorité de loin supérieure à celle de quelconque république humaine. Et combien plus juste, plus équitable, plus fraternelle. Il s'agit de l'autorité dont nous avons besoin. Alors, je ne sais pas si vous aimez cette période de Noël. Il y en a qui raffolent de Noël, l'ambiance, le vin chaud. cantiques de Noël, les fêtes, les cadeaux, les traditions. D'autres sont peut-être un peu plus ambivalents, parce que c'est peut-être difficile de vivre cette période de Noël. Peut-être vous avez perdu un être cher, et Noël, ben voilà, c'est un moment difficile. En tout cas, c'est le début du mois de décembre, qu'on le veuille ou non, que ce soit difficile ou pour vous, ou plus joyeux, on y arrive. On est là, maintenant, à la période de Noël. En l'église, on a déjà mis le sapin. Merci Mickaël. Merci pour le sapin. Merci aussi aux femmes d'avoir décoré la salle. Alors, le risque pour nous, c'est peut-être de faire ça juste par formalisme. Je ne sais pas si ça, c'est une tentation pour vous. Mais je pense, en tout cas, en commençant notre série de l'Avent, au début de l'évangile de Matthieu, et non pas simplement avec le récit de la naissance de Jésus, ce qu'on va voir la semaine prochaine, on va nous laisser interpeller par cette question. Et on va renouveler peut-être notre vision de qui Jésus est et de son autorité. On va commencer avec une première question. Est-ce que vous vous rendez compte de qui il est là? Et on va commencer au verset 1 de notre passage. Est-ce que vous vous rendez compte de qui est là? Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Décidément, en ce moment, on aime bien les généalogies. La semaine dernière, il y en a eu une. Ce matin, il y en a une aussi. Je vous ai déjà dit que mon père, il aime bien faire des recherches sur notre arbre généalogique. Alors, pour l'instant, dans notre famille, il n'y a personne de célèbre. Aucun prince, aucun roi. C'est dommage. Récemment, cependant, je pense que mon père a recensé quelques criminels envoyés en Australie. Et heureusement, je ne suis pas un descendant direct de ces personnes-là. Ici, on a affaire à la généalogie de Jésus-Christ. Et littéralement, les premiers mots sont « le livre de la Genèse de Jésus-Christ ». Le livre de la Genèse de Jésus-Christ. Et donc, il y a un écho très délibéré, donc il a choisi délibérément un écho de ce qu'on a vu au début du livre de la Genèse. Matthieu veut nous dire qu'avec Jésus, il y a tout un nouveau départ, que l'histoire recommence avec Jésus. Il y a un nouveau commencement. En 99, le mur de Berlin est tombé, les Allemands parlent de la Wende, die Wende, le tournant, un tournant tellement décisif dans leur histoire moderne. Mais ici, il y a un tournant d'une importance immensément plus grande. Le prophète Ésaïe l'attendait. Il a même esquissé le tableau d'une toute nouvelle création. Matthieu nous dit, ce tournant est là. Le Christ est là. Le roi tant espéré et promis est là. Et le verset 1 présente non seulement le début de la généalogie, mais le début de cette section de l'évangile de Matthieu, et peut-être à quelques égards, le sujet de cet évangile. Il nous parle de Christ, de celui qui était attendu, de celui que Dieu allait oindre, sacré, établir pour le salut de la nation. Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et le lien, me semble-t-il, que Matthieu veut vraiment mettre en avant dans cette généalogie, c'est le lien avec David. Jésus est le fils de David. Dans un sens, tous les autres liens ici dans cette généalogie, aussi importants soient-ils, pâlissent au regard par comparaison avec ce lien. Jésus est le fils de David. C'est mis en premier dans la liste. Oui, ça commence après avec Abraham. Et ça, ce n'est pas sans importance, on va y revenir. Mais d'Abraham, en passant par les autres patriarches, notamment Jacob, le père d'Israël, et aussi par Judas, son fils, celui de qui la monarchie allait venir, et allait tenir le sceptre royal. On arrive assez rapidement à David. Verset 6, Obed eut pour fils Isaïe. Isaïe eut David, le roi. Et nous sommes là, l'apogée, le sommet de l'histoire d'Israël. David le roi, David le roi, David le roi selon le cœur de Dieu, selon le choix de Dieu. David, le roi qui a battu Goliath. David qui a remporté tant de victoires militaires. David, le roi qui a rédigé bon nombre de psaumes. Et Matthieu martèle ce point, verset 1, en tête de liste, Jésus-Christ, fils de David. Et ensuite, au milieu de la généalogie, David le roi. Et ensuite, à la fin de la généalogie, ça c'est peut-être un peu plus, d'une manière un peu plus mystérieuse, Matthieu dit ceci, verset 17. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. 3 fois 14. Pourquoi ? Quelle signification ? D'autant plus que Matthieu, de manière consciente, a façonné cette généalogie en aplatissant certaines générations pour qu'il y ait bien le chiffre 14 à chaque fois. L'explication la plus convaincante est que les chiffres liés aux consonnes de l'alphabet hébraïque pour le nom de David, pour les trois consonnes, s'additionnent au chiffre 14. Matthieu, comme il a déjà fait, martèle que Jésus est bel et bien le fils de David. 14, 14, 14, David, 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 et même sans ces chiffres, jusqu'à David, ensuite depuis David, égale Christ à la fin. Mais pourquoi est-ce que David est si important? C'est parce que Dieu lui a donné de grandes promesses. Dieu lui a donné de grandes promesses. Écoutons ce que nous apprenons dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 7. C'est Nathan, le prophète, qui parle à David. David voulait construire une maison, un temple pour Dieu. Et voici la réponse de Dieu donnée dans une vision à Nathan. « Annonce maintenant à mon serviteur David, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. Je t'ai accompagné partout où tu as marché. J'ai éliminé tous tes ennemis devant toi. J'ai rendu ton nom aussi grand que celui des grands de la terre. J'ai donné un lieu de résidence à mon peuple, à Israël. Je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme par le passé. Comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple, sur Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. De plus, l'Éternel t'annonce qu'il va te faire lui-même une maison. Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le punirai avec le bâton des hommes, avec les coups des humains, mais je ne lui retirerai pas ma grâce, comme je l'ai fait avec Saül, que j'ai écarté de ton chemin. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. Nathan rapporta toutes ces paroles et toute cette vision à David. Donc voilà qu'il s'agit vraiment de grandes promesses, d'une grande alliance que Dieu a fait avec David. Je ferai surgir après toi, ton descendant, issu de toi, un trône affermi pour toujours. Il s'agit d'un règne éternel, règne qui n'a pas de fin, le règne d'un fils, d'un descendant de David. Alors si on suit ici la généalogie de David, on voit d'abord Salomon, un très grand roi quand même, et son règne n'était pas éternel. Ensuite, il y a une succession de rois, issus de David aussi, en général, des mauvais rois, avec quelques exceptions, bien sûr, pour Josias, je cherche. Il faut dire que le royaume aussi s'est séparé en deux. Donc, il y a eu cette guerre civile. Enfin, verset 11, il y a la déportation à Babylone. Et donc, c'est la fin de la monarchie. La fin de la monarchie de David, la maison de David. Alors, il y a une lignée après la déportation qui descend de David, mais il y a plus de roi à Jérusalem. Et ça, ça aurait pu être la fin de cette histoire, de ces promesses d'un roi descendant de David avec un trône éternel. Mais Dieu est toujours fidèle. Ses promesses ne tombent jamais à l'eau. Il garde toujours ses promesses. Et les prophètes le savaient fort bien. À Noël, on cite souvent ce passage, Ésaïe 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Et quelques versets plus loin. En effet, un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Prince de la paix. Étendre la souveraineté. Donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. Et Jérémie, un autre prophète de la même époque, nous dit « Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je donnerai à David un germe juste. Il régnera avec compétence, il exercera le droit et la justice dans le pays. À son époque, Judas sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. » Et Matthieu martèle ce point. Ce fils de David est là, le bébé qu'on va voir dans le passage suivant. Le roi, loin tant attendu, doté de l'autorité de Dieu. La bonne nouvelle de Noël a tout à voir avec l'autorité. Dieu est là, son roi est là. Parfois un homme politique se fait passer un peu, surtout dans les campagnes d'élection, donc se fait passer pour un personnage un peu comme un messie. Il va tout changer. Ce sera un nouvel ère, un nouveau paradigme politique va s'établir. Et ensuite, bien sûr, les gens déchantent. Forcément parce qu'aucun homme n'y parvient. 2000 ans plus tard, nous parlons encore de Jésus-Christ, même ce matin. Comme la suite de cet évangile nous montre, ceux qui cherchaient en lui un homme politique fort, un libérateur pour chasser l'occupant romain, ils ont vite été déçus. Et leur déception s'est transformée en colère, en haine. Et c'est parce qu'ils avaient une vision trop limitée, trop réduite, pas si ambitieuse de la grandeur du roi de l'Éternel. À notre manière aussi, on peut avoir une vision trop réduite, trop petite de Jésus-Christ. Il est juste un ami spirituel, un enseignant qui nous aide dans la vie. Mais Matthieu veut nous dire ce Noël, est-ce que vous vous rendez compte de qui il a? Il est le roi doté de l'autorité divine. Son trône est éternel. Ce qui nous amène à notre deuxième point. On a deux points ce matin. Notre deuxième point. Et cette fois-ci, pas une question, mais une affirmation. Qu'est-ce que ce roi est bon pour nous tous? Parce que cette généalogie, même si dans un sens c'est juste une liste de noms, elle commence quand même à nous donner un portrait de quel genre de roi, quel genre de Christ le bébé dans la mangeoire sera. Et ce portrait est à la fois réjouissant et rassurant. On voit d'abord que son règne sera universel. Tous, qui que nous soyons. D'abord, au verset 1, nous voyons que Matthieu veut que nous comprenions que Jésus est également le fils, un fils d'Abraham. Dans ce sens, ça c'est une évidence parce que pour tout juif, leur père, c'est Abraham. Mais comme pour David, la signification de cette référence est liée aux promesses que Dieu a faites à Abraham. Alors ces derniers mois, on était dans le livre de la Genèse. Et la semaine dernière, on a abordé les chapitres 10 et 11. Il y avait ce tableau des nations, c'était aussi dans la généalogie, 70 nations, toutes les nations de la terre. Et aussi au milieu, le récit de la ville et de la tour de Babel. Et Moïse a brossé le tableau d'une humanité orgueilleuse, en rébellion contre Dieu, dispersée par Dieu pour limiter le mal qu'elle pouvait faire. Et dans le passage suivant, donc dans le livre de la Genèse, chapitre 12, qu'on va aborder dans quelques mois, on a l'appel d'Abraham. Dieu de cette humanité va prendre un homme, Abraham, et Dieu lui donne des promesses extraordinaires, des promesses selon lesquelles Dieu va renverser, défaire toutes les malédictions qu'il a déversées sur l'homme à cause de son péché. Il s'agit de promesses unilatérales, unilatérales. Dieu va faire ces choses, quoi qu'il arrive. Voici ce qu'il a dit Dieu à Abraham. « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Bénédiction à la place de malédiction. Et ça pour toutes les familles de la terre. Plus loin au chapitre 22 de la Genèse, c'est clair que cette bénédiction viendra au travers d'une descendance d'Abraham, un fils d'Abraham. Le règne donc de ce roi est éternel en faveur de toutes les familles de la terre. Et c'est ce qu'on va voir en parcourant cet évangile, ou si vous deviez lire cet évangile, parce qu'à la fin de cet évangile, le Christ ressuscité, qui a reçu tout pouvoir, toute autorité de son Père, dans ce mandat à ses disciples, allez, faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et cette universalité se voit aussi dans sa lignée humaine, haute en couleur. Oui, le Christ est juif, il est un Israélite, c'est sûr. Mais dans cette généalogie, Matthieu relève de manière très consciente quatre femmes étrangères, ou quatre femmes qui ont des liens avec l'étranger. D'abord, verset 3, Tamar, une femme de Canaan, qui s'est mariée avec le fils, avec Judas. Ensuite, le fils de Judas, pardon. Ensuite, Rahab de Jéricho, cette femme qui a hébergé les espions avant la conquête. Ensuite, Ruth de Moab, la femme de Boaz. Et puis, verset 6, la femme du roi David, Bathsheba, une Israélite, certes, et qui était d'abord la femme d'Uri, un Hittite. Alors Matthieu ne devait pas citer le nom de ces femmes, parce qu'il y a un modèle qui se répète dans la généalogie. D'habitude, il ne mentionne pas les femmes, mais il les mentionne de manière délibérée. La lignée de Jésus englobe ces nations, ces familles de la terre, même des nations ennemies d'Israël, ces nations qui franchement n'avaient pas bonne presse. Quelle bonne nouvelle rassurante, réjouissante. Son règne est pour nous tous. Français, haïtiens, malgaches, écossais, japonais, saoudiens, afghans, russes, australiens, guatemaltèques. Alors, à ce qu'on sache, probablement pour la plupart d'entre nous, on n'est pas des descendants d'Abraham, on n'est pas des juifs. Et ce roi est pour nous tous. Il veut bénir toutes les familles de la terre. Il y a quelques semaines, John Chow, un missionnaire américain, est mort dans les îles Sentinelles, dans l'océan Indien, abattu par des flèches d'une tribu qui, pour nous, est toujours dans l'âge de la pierre. Est-ce qu'il aurait dû y aller de cette manière-là? Je n'en sais rien. Et il avait quand même raison de penser que ces hommes, ces femmes avaient besoin d'entendre la bonne nouvelle de leur roi, le roi universel, le roi de toutes les familles de la terre, un roi qui veut bénir toutes les familles de la terre. Il est pour nous tous. Et il est bon pour nous tous. Son règne est un règne bienfaisant. Nous le savons bien sûr de la suite du récit de l'Évangile, mais on le voit déjà dans sa lignée quand même, dans sa descendance, dans ses ancêtres. Et je reviens à ces femmes que Matthieu a choisi de mettre en avant. Tamar, Rahab, Ruth, la femme d'Uri, Bathsheba. Et plus loin, bien sûr, à la fin, Marie elle-même. Chacune a une histoire particulière. Tamar, Genèse 28. Une femme de Canaan qui a fini par se prostituer et tomber enceinte de son beau-père, Judas. Quelle histoire! Rahab, une prostituée de Jéricho, celle qui a aidé les espions. Ruth de Moab, une immigrée destituée qui a fait confiance à l'Éternel. La femme d'Uri qui, avec David, a commis l'adultère, même si c'est peut-être mieux de dire qu'elle a été la victime d'un viol. Je ne sais pas si elle a eu vraiment le choix face à cet homme puissant. Qui sait? Et Marie, une femme, une jeune femme humble, qui a, sans doute, comme on va voir dans le passage suivant, elle a dû faire face à des rumeurs infondées à cause de sa grossesse. Et voici la lignée humaine de Jésus. Une lignée bien humaine, de petites gens, qui ont vécu très souvent des choses tristement humaines, bien décevantes, parfois moralement répugnantes. Et ensuite, ailleurs dans sa lignée, on voit qu'il y a des rois, des bons rois, de temps en temps, et surtout des mauvais rois. On peut penser à Manassé, par exemple. C'est la misère humaine dans cette lignée. Voici la lignée de Jésus-Christ, pleinement Dieu, mais pleinement homme aussi. Et dans la suite de cet évangile, on va apprendre que Jésus est venu pour les malades, ceux qui avaient besoin d'un médecin. Malades de cœur, les cœurs trempés dans le péché. Et on voit Jésus assis à table avec des pécheurs. Il a heurté la sensibilité des gens soi-disant bien de l'époque, des gens religieux. Jésus aimait ces petites gens, ces exclus. Au chapitre 11, on a ces mots dans la bouche de Jésus. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit. Et l'on dit, c'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Et en effet, il est l'ami des pécheurs. Quel ami, fidèle et tendre. Plus loin, au même chapitre, Jésus dit, « Mon Père m'a tout donné. » Donc là, il parle de son autorité divine. Il est le roi. « Mon Père m'a tout donné. » Et ensuite, verset suivant, après quelques lignes, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Quel roi ! Quelle bonne nouvelle ! Un roi doté de toute l'autorité de Dieu qui enlève notre fardeau. Le fardeau de notre péché, de notre culpabilité, de notre honte. Comme on va voir dans le passage suivant la semaine prochaine, il est venu pour sauver son peuple de ses péchés. C'est le message de la croix. Et c'est une bonne nouvelle pour toutes les familles de la terre. Un roi doté de l'autorité de Dieu nous a été donné. Un roi promis dont le règne est éternel. Et ce roi venu faire du bien. Un roi qui nous bénit en réglant la dette de notre péché, en enlevant notre fardeau. Peut-être que vous êtes particulièrement conscient de ce fardeau ce matin. Peut-être le fardeau de fautes commises, d'échecs, de faillites morales, de mensonges, d'adultère, d'immoralité sexuelle, de convoitise, peut-être de méchanceté, de paroles dures, haineuses. En réalité, si nous sommes lucide, on est tous concernés par ce fardeau. Et le roi, Jésus, nous dit ce matin, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Cette généalogie nous montre la fidélité de Dieu, n'est-ce pas? Il tient ses promesses, celles données à Abraham, celles données à David. Dieu tient à bénir toutes les familles de la terre, toutes ces personnes loin de lui, courbées, rebelle à son égard. Et toutes ses promesses s'accomplissent en Christ, le roi, le Seigneur Jésus, le bébé de Noël. Voici le message de Noël. Émerveillons-nous ce Noël devant la fidélité de notre Dieu. Nous, on ne contribue rien à cette bonne nouvelle, et même pas à notre salut. On est des pécheurs. L'exil ou la déportation, comme Israël à l'époque, nous méritons ça. Mais Dieu nous a donné son Fils. Fils de David, roi, roi de l'univers, et fils d'Abraham, parce qu'il veut que nous goûtions à cette bénédiction, à ce repos, à cette relation restaurée au pardon. Et on ne peut que dire merci. Prions. Merci en effet, notre bon Père Céleste, pour ta fidélité. Merci de ce que ta parole est toujours fiable. Tes promesses, tes paroles ne reviennent jamais sans effet. Et celle donnée à Abraham, celle donnée à David, a été accomplie en ton Fils, notre roi, le bon roi qu'il nous faut. Et notre bon Père Céleste, ce Noël, nous voulons te demander de nous aider à avoir une vision renouvelée, agrandie, de qui Jésus est, l'autorité extraordinaire de ce roi de l'univers qui nous veut du bien, qui a donné sa vie pour que nous puissions connaître le repos, la bénédiction, le pardon. Amitié avec toi. Nous te louons pour lui. Donne-nous de fléchir le genou devant lui, de le louer, de l'exalter dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos paroles et par nos actes. Et nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen.